Bonjour à tous. Je vous invite à lire avec moi le dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Une partie de Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent au sépulcre, et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et saisirent ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Et un peu plus loin, au verset 16, « Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dernière parole de Jésus rapportée par Matthieu. Parole essentielle qui envoie les disciples témoigner, qui envoie les disciples en mission. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Je voudrais ce matin aborder avec vous le mot « disciple » et la signification de ce mot. Disciple, celui qui se met volontairement à l'écoute d'un maître et suit son enseignement. Telle est la définition. Le disciple, c'est celui qui écoute, comprend et met en pratique l'enseignement de Jésus. Nous sommes dans les évangiles et nous allons considérer d'une façon un peu plus large le sens et la place de ce mot « disciple » dans l'Écriture. Disciple et maître. Des mots surannés, des mots qui semblent être d'une autre époque. je me suis dit, je vais aborder un sujet avec un mot qui est important, et pourtant qui ne semble pas être dans les mots couramment employés aujourd'hui. Parler de disciples, alors que certains ont proposé qu'on n'appelle même plus les élèves élèves, mais qu'on les appelle apprenants. Et moi, je vais parler des disciples. Tournons-nous d'abord vers l'Ancien Testament. Le mot n'est pas très souvent employé, à vrai dire, dans l'Ancien Testament. On évoque des disciples autour de certains prophètes et autour des sages. Les prophètes et les sages, des personnes de parole à l'égard de leurs contemporains, des personnes qui sont chargées de transmettre l'une, les prophètes, les paroles de Dieu, l'autre, les sages, les applications dans la vie de ces paroles de Dieu. Mais auparavant, je voudrais rappeler simplement quelque chose qui me paraît essentiel, c'est qu'au moment où Dieu parle à son peuple et lui donne sa loi, c'est-à-dire toute la description de sa ligne de conduite, il y a encore une autre catégorie de personnages qui sont chargés par Dieu de dire la loi, de l'expliquer, de la commenter. Ce sont les prêtres, ce sont les lévites et les prêtres qui sont chargés de cette transmission de la parole de Dieu. Alors pour donc, en tout cas pour les prophètes et pour les sages, il est question de disciples, pas pour les prêtres, puisque les prêtres, eux, sont chargés de transmettre directement la parole reçue de Dieu, et que là, il s'agit de disciples de Dieu. Il n'est jamais question de disciples des prêtres. On voit donc dans l'Ancien Testament Élisée qui s'attache à Élie et qui devient son disciple, ou un groupe de fervents disciples entourant le prophète Ésaïe et recevant en dépôt son témoignage et sa révélation. De façon plus habituelle, les sages, eux, donnent leurs enseignements et leurs paroles à ceux qui les écoutent. Et pour eux, ce n'est pas tellement le mot disciple qui est employé, mais ceux qui sont en réalité les disciples, les sages les appellent leurs fils. Et vous connaissez tous ceux qui fréquentent les Écritures, ces paroles que nous lisons au début du livre des Proverbes, en particulier, « Mon fils, sois attentif à mes paroles ». Et la sagesse elle-même, qui est la caractéristique de ces sages, la sagesse est personnifiée et elle parle dans les rues, elle appelle ceux qui l'entendent à écouter ses paroles et à suivre la sagesse. Mais ni les prophètes ni les sages n'oseraient, par leur enseignement, supplanter la parole de Dieu. Ils ne sont que les interprètes, que les porte-paroles. C'est seule la parole de Dieu, en effet, et non les traditions des maîtres, la tradition que le maître transmet à ses disciples, c'est la parole de Dieu seule qui est la base de l'alliance. C'est donc de Dieu que sont appelés à être disciples tous ceux qui entendent sa parole. Puisque la parole divine est la source de toute sagesse, l'idéal n'est donc pas de s'attacher à un maître humain, mais d'être disciple de Dieu lui-même. Nous l'avons dit, la sagesse divine est personnifiée et elle se présente comme la parole même de Dieu. Dieu se fait le maître des cœurs. Et dans les derniers temps, dans l'Ancien Testament, nous lisons que personne n'aura plus besoin de maître terrestre, mais que tous seront disciples de Yahvé, disciples de l'Éternel. C'est pourquoi le serviteur de l'Éternel, qui est annoncé dans les prophètes, le serviteur de l'Éternel lui-même, chargé d'enseigner les prescriptions divines, à chaque matin, c'est un très beau texte qui dit « Chaque matin, tu éveilles mon oreille et tu me donnes une oreille de disciple. » Magnifique parole. Chaque matin, le serviteur de l'Éternel qui est chargé de transmettre la parole du Seigneur, chaque matin, dit-il, tu éveilles mon oreille et tu me donnes une oreille et une langue de disciple. C'est pourquoi, fidèle à cette prophétie, le psalmiste lui-même suppliera sans se lasser, « Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. » Un pape plus loin, au retour de l'exil, la loi devenant l'objet premier de l'enseignement, les maîtres chargés de cette institution fondamentale sont appelés docteurs de la loi. Or, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'à l'autorité de la parole de Dieu qu'ils commentent, s'ajoute peu à peu leur autorité personnelle et le fait qu'ils transmettent avec la parole de Dieu la tradition transmise et reçue des maîtres et des anciens. Et je voudrais lire un autre texte dans l'évangile de Matthieu. Je vous lis les premiers versets au chapitre 23 de l'évangile selon Matthieu. Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il leur dit : Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Moïse, c'était le premier qui a transmis, bien sûr, la parole de Dieu au peuple. Et que dit Jésus de ceux qui, à son époque, sont chargés d'étudier la parole de Dieu et de l'enseigner, les scribes et les pharisiens? Ils siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Écoutez leurs actions. Pardon, toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler « maître » par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler « maître », car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur ou enseignant, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Il y a eu donc une grande dérive qui s'est instaurée tout au long des siècles, dans le cœur et les actions de ceux qui étaient chargés de transmettre la parole de Dieu. Comment faire ? Pas disciple d'un maître humain, venons-nous de lire, parce que ces maîtres humains ont dérivé. Et cela correspond au fait que seul Dieu, seul Jésus, qui est venu apporter la parole, en étant lui-même la parole vivante, sont les maîtres dont il faut suivre l'enseignement et dont il faut être les disciples. Faites de toutes les nations des disciples, a dit Jésus à ceux qui étaient ses disciples. Dans le Nouveau Testament, à part quelques mentions de disciples de Moïse, de disciples de Jean-Baptiste ou des pharisiens, le Nouveau Testament réserve le nom de disciples à ceux qui ont reconnu Jésus et Jésus seul pour leur maître. Ainsi, dans les évangiles, nous avons d'abord les premiers disciples, c'est-à-dire les 12, ceux que Jésus lui-même a choisis, puis, au-delà de ce cercle intime, ceux qui suivent Jésus, et notamment les 72 que Jésus envoie en mission pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Finalement, ces disciples qui suivaient Jésus furent sans doute nombreux, mais un certain nombre d'entre eux abandonnèrent le fait de suivre Jésus. Faites de toutes les nations des disciples, a dit Jésus en quittant les siens. Si chacun de ceux qui ont reçu cette parole d'abord et puis tous les autres disciples de Jésus sont appelés à faire des disciples, ce n'est bien entendu pas pour leur compte, mais pour le compte de Christ seul. Ainsi, peu à peu, à partir du chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres, l'appellation simple de disciple vise tout croyant, qu'il ait ou non connu Jésus directement pendant sa vie terrestre. Les fidèles sont donc au départ appelés d'abord les disciples. Et à partir du chapitre 6 donc, du livre des Actes, tous ceux qui sont appelés disciples sont les chrétiens. D'ailleurs, c'est mentionné à un moment donné, il est dit que les disciples furent appelés chrétiens. Quelles sont les caractéristiques de ces disciples? Premièrement, la vocation. Ils sont appelés par le Seigneur. Ce qui compte pour devenir disciple, ce ne sont pas les aptitudes intellectuelles ou même morales, c'est l'appel reçu et proclamé, l'appel dont Jésus a l'initiative. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. C'est l'appel qui s'adresse au premier auquel Jésus parle et qui l'envoie faire dans toutes les nations des disciples. La vocation. Ensuite, l'attachement personnel au Christ. Jésus dit « Suis-moi » à un tel, à ceux qui sont au bord du lac et qui sont partis à la pêche, à Matthieu qui est assis pour récolter les impôts au bureau de péage. « Suis-moi ». Dans les évangiles, le verbe « suivre » exprime toujours l'attachement à la personne de Jésus. Suivre Jésus, c'est laisser tout le reste, rompre avec le passé. Suivre Jésus, c'est calquer sa conduite sur la sienne, écouter ses leçons et conformer sa vie à celle de celui qui est venu pour les sauver. À la différence des disciples, des docteurs juifs, qui, une fois instruits, pouvaient se détacher de leur maître et enseigner à leur tour, le disciple de Jésus s'est lié d'une façon définitive, non à une doctrine, mais à une personne. Il ne peut quitter celui qui désormais est, pour lui, le maître, plus que tout, plus près de lui-même que sa propre famille. Attachement personnel au Christ et destin et dignité de celui qui est disciple. Le disciple de Jésus est appelé à partager le destin même de son maître. Ainsi, nous voyons que dans le parcours de l'enseignement de Jésus, il fait venir à lui ses disciples et il leur dit où il va les amener. D'abord, il leur dit, comme disciples, ils vont devoir porter sa croix et boire sa coupe. Mais en même temps, ils vont recevoir de lui le royaume. Ils sont les fils et les filles du royaume. Et ainsi, dès maintenant, ceux qui se comportent en disciples et qui donnent un verre d'eau à l'un de ses plus petits parce qu'il est son disciple, Jésus dit, il ne perdra pas sa récompense. Et de l'autre côté, celui qui scandaliserait un de ses petits parce qu'il est son disciple, celui-là commet une faute grave. Disciple de Jésus et disciple de Dieu. Si les disciples de Jésus sont ainsi distingués de ceux qui étaient disciples des docteurs juifs, c'est qu'à travers son Fils, c'est Dieu lui-même qui parle aux êtres humains. C'est Dieu lui-même qui parle. Les docteurs ne transmettaient que des traditions humaines qui parfois allaient même jusqu'à annuler la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons lu ce passage sévère contre ceux qui se prétendaient disciples, qui s'en faisaient une gloire et qui en tiraient une autorité qu'ils n'avaient pas le droit, à laquelle ils n'avaient pas le droit d'émarger. Jésus, c'est la sagesse divine incarnée qui promet à ses disciples le repos de leurs âmes. Quand Jésus parle, la prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit. C'est Dieu lui-même qu'on entend et ainsi tous peuvent devenir disciples de Dieu. Mais il reste une grande question. Disciple directement de Dieu, le fait que personne ne se fasse appeler maître sur le plan humain. Mais alors, comment se fait la transmission de l'enseignement du maître à ses disciples? Comment se fait concrètement l'enseignement de Dieu d'abord, de Jésus bien sûr, à ses disciples et à tous ceux qui sont appelés à devenir disciples? Bien sûr, nous avons à transmettre la parole écrite. Et la prophétie s'accomplit avec la venue du Saint-Esprit. Et la prophétie était explicite. Chacun n'enseignera plus son voisin, son frère, en disant « Viens, connais l'Éternel, car tous me connaîtront. J'écrirai, dit Dieu, mes lois dans leur cœur, et je ferai qu'ils écoutent ma parole et qu'ils marchent selon mes lois. » Transmission directe, donc, par la parole et par l'esprit, chacun se disant disciple, directement enseigné par Dieu. Oui, mais pas seulement. J'allais dire oui et non. Oui, bien sûr. Mais nous voyons que dès le début de l'Église, Dieu a choisi justement ceux qui étaient les premiers disciples, les tout proches de lui, pour faire de ses disciples les porte-paroles qui annoncent l'Évangile au peuple. Le jour même de la Pentecôte, Pierre, entouré de tous ceux qui étaient réunis, s'adresse au peuple, leur annonce l'Évangile. Et leur dit que s'accomplit à ce moment même cette prophétie de la venue de l'Esprit pour annoncer le salut, la repentance et la foi à ceux qui sont appelés à devenir disciples du Seigneur. Et ce jour-là, vous savez ce qu'ils ont dit ? Hommes, frères, que ferons-nous ? Repentez-vous et que chacun soit baptisé, comme Jésus l'avait demandé à la fin de l'évangile de Jean. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Disciples, confessant leur foi et devenant à leur tour disciples, Maître, Seigneur, tu m'enseignes et je te suis. Nous savons donc, à partir de là, que ceux qui se sont réunis ont été ajoutés à l'Église, que l'Église de Jérusalem a essaimé, l'Église d'Antioche, d'autres églises, et que les apôtres, les premiers qui ont transmis le message, ont été chargés de réunir les chrétiens et aussi de rassembler dans l'Église tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et de nommer dans l'Église certains qui sont chargés plus spécialement de l'enseignement. Et là, je voudrais lire un dernier texte qui est bien connu et que nous avons dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous savons ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Et que nous est-il dit dans ce chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens? Il est question de Jésus qui est monté et qui a fait des dons, qui est monté au ciel et qui a fait des dons aux hommes. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Et c'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs et chargés de l'enseignement, afin de mettre les saints, les disciples, les chrétiens, en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. Et voilà le chemin que le Seigneur a choisi pour l'édification de l'Église. Et nous avons donc maintenant la réponse. Nous demandions, nous sommes enseignés directement par Dieu, et nous sommes disciples du Christ. Et ceux qui sont chargés de transmettre cet enseignement, eux-mêmes, sont disciples et nous sommes tous ensemble disciples. Dieu donne à l'Église ceux qui sont plus spécialement chargés de l'enseignement pour qu'ensemble nous grandissions pour accomplir l'œuvre qui doit être accomplie et que chacun devienne adulte dans le Christ à la taille, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Du Christ dans sa plénitude. C'est ainsi qu'il n'y a plus cette seule possibilité qu'il y avait dans l'ancien temps de savoir si les maîtres juifs en particulier enseignaient correctement ou pas. Vous savez que dès le début de l'Église, quand les apôtres et les disciples, et plus tard aussi l'apôtre Paul, qui a été envoyé dans les nations pour annoncer l'Évangile. Vous savez qu'ils allaient de lieu en lieu, de ville en ville. Et pour une de ces villes, il nous est rapporté le fait que ceux qui s'étaient tournés vers le Seigneur et qui étaient devenus disciples écoutaient l'enseignement de l'apôtre Paul et l'enseignement des autres qui étaient avec lui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Quelle belle attitude de responsabilité, non pas de mise en doute de la parole de Paul ou de la parole d'un autre enseignant, mais quelle cohérence, puisqu'ils savaient que cet enseignement ne pouvait valablement qu'être conforme à la parole révélée de Dieu. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Je terminerai ce parcours en disant que ce n'est pas le plus éminent des enseignants qui est la référence pour ce qui est vrai, juste et bon, et conforme à Jésus et à son enseignement, mais c'est l'Église elle-même, tout entière, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul déclare à son disciple Timothée, qui est chargé d'enseigner, et il lui dit cette parole très importante. C'est l'Église tout entière qui est la colonne et l'appui de la vérité. La parole de Dieu, le Saint-Esprit et la communauté chrétienne ensemble pour définir comment chacun peut être disciple de Jésus-Christ, entendre Jésus et mettre en pratique sa parole. Allez donc, faites dans toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.